Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le film qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je suis comme à chaque fois très heureux de vous accueillir dans ce podcast qui est là pour vous donner envie de visionner ou revisionner un long métrage grâce à une conversation intime où mon invité nous explique comment sa rencontre avec un film l'a profondément marqué à tel point qu'à force de l'avoir vu, ce film est désormais synonyme de souvenirs personnels ou encore une source de vocation ou d'inspiration. Petit message d'usage, vous en avez l'habitude, si vous avez envie de soutenir l'émission et de la faire connaître auprès d'un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. D'habitude, à la fin de l'émission, je lis les commentaires laissés sur ces plateformes, mais cette semaine, je vais livrer des remerciements un peu particuliers. Vous verrez ça tout à l'heure. Aujourd'hui, 19e épisode dans lequel vous allez faire la connaissance d'une jeune femme originaire de Poitiers. Elle s'appelle Julie. C'est à sa majorité que la docteure ingénieure en chimie aujourd'hui a découvert son premier film issu de la fameuse industrie indienne Bollywood qui a pour nom Devdas. Elle était loin d'imaginer que ce film serait pour elle la voie royale vers un amour inconditionnel pour les films bollywoodiens, mais aussi pour tout ce qui concerne la culture indienne. Avec Julie, on a parlé bien sûr de l'Inde, de l'industrie cinéma dans ce pays, du charisme de Shah Rukh Khan, de Paro, de Chandramukhi, de voix aiguë, de chorégraphie sublime, de censure ou encore de chansons qui rythment la bande-son du film de Bansali. Je vous propose de découvrir l'entretien enregistré avec celle qui co-anime le podcast Bollywood Versus avec sa partenaire Mélanie juste après un extrait de la bande-annonce de Devdas.
तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता।
अब तो ये चेहरा चांद की शादी दिखाऊंगी।
वो अभिमानी उद्दन
वो चंचल हिरनी सी अल्लड़ नदी जैसी कभी झूठी कभी तितली
Bonjour Julie.
Salut Junior, bonjour tout le monde.
Sois la bienvenue dans le film qui a changé ma vie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On est là pour parler d'un film indien avec Devdas. Ça a été une grande découverte pour moi, on va y revenir. On va évoquer tout cet univers avec toi Julie. Mais d'abord, comme d'habitude, j'aurais besoin pour les auditeurs qui ne connaissent absolument pas Devdas, de quoi parle ce film ?
Alors Devdas, c'est un petit peu le Roméo et Juliette indien, c'est assez souvent comme ça qu'il est défini. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes gens, donc Paro, une jeune femme, et Devdas, un jeune homme, qui se connaissent depuis l'enfance, qui s'aiment depuis toujours. Sauf que voilà, ils ont une différence de caste et de statut social qui va faire que leur mariage est impossible, leur romance est impossible. Et en plus de ça, il va y avoir tout un tas d'intrigues autour de leur famille, de gens extérieurs, et également d'un personnage important qui s'appelle Chandramukhi, qui est une courtisane qui va tomber follement amoureuse de Devdas. Et donc voilà, c'est tout plein d'intrigues, d'amour impossible, voilà, c'est très shakespearien.
Complètement. Devdas, lui, est propriétaire. Paro, elle est d'une caste beaucoup plus inférieure et n'a rien à faire a priori avec lui. Ça rappelle aussi ces deux familles qui se confrontent. Il y a beaucoup de Montaigu et de Capulet. En effet, il y a pas mal de Roméo et Juliette qui ressort de ce film-là. Alors, au casting, je te laisse prononcer les noms pour éviter que je les écorche à longueur d'émission. Est-ce que tu peux nous dire qui est la réalisation et qui compose le casting, Julie, s'il te plaît ?
Alors, le réalisateur, c'est Sanjay Leela Bhansali. Et les trois acteurs principaux, qui sont les plus connus d'ailleurs hors Inde, c'est Shah Rukh Khan dans le rôle de Devdas, Aishwarya Rai dans le rôle de Paro, et Madhuri Dixit dans le rôle de Chandramukhi.
Déjà, avant même de commencer à parler du film, ça m'intéresse surtout de savoir qu'est-ce que tu connaissais de Bollywood avant même de commencer Devdas. Est-ce que c'est un univers qui t'intéressait, qui t'interpellait, mais vers lequel tu n'allais pas parce que finalement il y avait d'abord les films français, les films américains, ou est-ce que ça t'est tombé dessus ? Comment ça s'est goupillé, cette relation, cette envie d'aller vers Bollywood?
Alors moi, ça m'est tombé dessus parce que honnêtement, je connaissais mais vraiment rien. Je suis pas très portée honnêtement vers le cinéma. Enfin, en tout cas, à l'âge où j'ai découvert ça, j'étais pas très portée sur le cinéma. Vraiment, le cinéma français, ça me parle pas du tout. Beaucoup plus le cinéma, voilà, américain. Et le cinéma indien, vraiment, j'en avais mais aucune idée. Je veux dire, même pas ne serait-ce que des petits préjugés comme les gens pourraient avoir en se disant c'est kitsch, c'est beaucoup d'amour, etc. Vraiment, je partais d'un niveau zéro. Et c'est grâce à une amie qui, elle, était tombée dedans, qui un jour m'a mis un peu, presque forcée, devant les yeux une scène. Et là, j'ai fait « Ah, c'est à ça que ça ressemble ? Ah bah, ça m'intéresse !»
C'était quoi comme scène ? C'était une scène de ce film-là, Devdas ? Ou c'était une, autre film ?
Tout à fait, ouais, c'est Devdas. C'est le tout premier film Bollywood. Et voilà, c'est lui qui m'a ouvert les portes d'un cinéma dont je n'avais aucune idée.
D'accord, on va y revenir sur cette scène parce qu'elle est fondamentale pour le reste de ton histoire, d'ailleurs. Tu as quel âge quand tu découvres Devdas et tu en es où dans ta vie ?
Alors, à ce moment-là, j'ai 18 ou 19 ans. Le lycée est passé, je suis dans les études supérieures, je prépare des concours pour aller en école d'ingénieur. Donc, ouais, ça faisait une bonne porte de sortie par rapport à toutes les révisions que je pouvais avoir à ce moment-là.
Oui, c'est vraiment l'univers qui est venu à toi. Et donc, cet ami te montre cet extrait. Le délai entre le visionnage de cet extrait et le fait que tu te mettes à mater intégralement Devdas, il était long, il était court. Tu l'as maté combien de temps après ?
Alors, il a été très court parce que du coup, on était chez cette amie, elle nous met le DVD. Ça aussi, c'est une certaine époque où accéder à des films Bollywood, c'était hyper compliqué. Elle avait réussi à avoir des DVD parce qu'elle allait spécifiquement alors à Gare du Nord, puisque à ce moment-là, j'étais en région parisienne. Donc, c'est vraiment dans le quartier indien, là où ils vendent les DVD et tout. Et encore, c'est des DVD qui sont piratés, avec des sous-titres un peu spéciaux, faits un peu par Google Trad. Donc, c'est vraiment... C'est comme si je rentrais dans un marché noir, presque. Et du coup,
tu me rappelles trop l'époque des gravures sur DVD en format DivX, tu sais, des années 2000. Ça me rappelle tellement ça.
Ah ouais, mais c'était vraiment ça. Et donc, elle sort cette jaquette DVD. En plus, ils sont tout fins, ils font genre 2 mm d'épaisseur. Elle me montre la scène. On passe toute l'après-midi ensemble et tout. Et puis, j'y réfléchis à cette scène et je lui dis bah écoute, en fait, passe-moi le film, j'ai bien envie de voir. Parce que cette scène m'a tellement bouleversée et marquée. Et je me dis non, il faut que je regarde le film. Elle me passe le DVD et puis j'ai dû le regarder. Peut-être dans la foulée, peut-être 48 heures après, et j'ai fait tout le film. Je me suis dit, ok, là il faut que j'en voie plus. Tu vas devenir ma fournisseuse officielle de DVD. Il faut que j'en sache plus.
Est-ce qu'elle avait un long imperméable pour te le passer discrètement sous le manteau en scred?
C'est ça, tu veux un DVD à 2 euros? Ouais.
Excellent en tout cas. Il y a cette rencontre avec Devdas. Je tiens à préciser que mes invités vont m'achever. Donc cette année, j'ai eu la totale. Hein, 2 fois 2h45 avec les deux Batman, 3h Titanic. Là, j'ai 2h52 avec Devdas. Moi, ça m'intrigue de savoir, la première fois où tu poses les yeux sur ce film, qu'est-ce que tu as ressenti ? Est-ce que tu as senti le temps passer ? Est-ce que tu t'es émerveillé ? Est-ce que tu t'es fasciné, étonné ? Je me demande vraiment quel sentiment traversait ton esprit à ce moment-là.
Alors, de mémoire, je crois pas avoir senti le temps passer. Ce qui m'arrive quand même plus souvent quand je regarde d'autres films de Bollywood maintenant, c'est quand même un film, juste pour préciser, qui date de 2002. Et à cette époque-là, vraiment, la moyenne, c'est d'être autour de 3 heures de film. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. Ça a rétréci pour faire des films de 1h30, 2h max. À l'inverse d'Hollywood qui s'est dit « Allez, maintenant, on va faire des films de 3 heures ». Non, j'avais pas senti le temps passer parce que j'étais tellement plongée dans un univers inconnu. J'étais un peu comme Alice qui arrive au Pays des Merveilles et qui voit plein de couleurs, plein de choses nouvelles et qui se dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'est tellement nouveau que t'es un peu happé par cette nouveauté. Non, moi, j'avais été émerveillée. Je pense que ça m'a pas fait le même effet en le revoyant plus tard, en me disant « Oh, là, les 3 heures, je commence à les sentir passer par contre.
» Oui. D'ailleurs, quand tu sors du film, ça m'intéresse aussi de savoir, est-ce qu'on a ce souci de rechercher à mieux comprendre l'univers ? Est-ce que tu es parti à la recherche de la définition de ce que c'est Bollywood, à quoi ça correspond, qui sont les stars, quels sont les meilleurs films, les incontournables. Est-ce qu'il y a ce travail-là tout de suite après le visionnage ou est-ce qu'il a fallu un peu de temps quand même?
Ça s'est fait en plusieurs étapes. La première, c'était que cette amie que j'avais à l'époque, elle avait déjà plongé à fond dans l'univers, donc j'avais de la chance, c'est elle qui m'a introduit tout l'univers. Donc elle était déjà très fan de certains acteurs, certaines actrices, donc elle m'a amené un peu toutes les clés. C'est vrai qu'au départ, t'es un peu perturbé parce qu'il y a beaucoup de codes qui sont très différents, et puis surtout, comme c'est une autre culture, il y a beaucoup de choses qui nous échappent historiquement, en termes de religion, de mythologie. C'est le cas dans Devdas, il y a des choses qu'on ne lit pas pareil entre son premier visionnage et une fois qu'on a acquis de la culture indienne. Moi, ça a été fait en deux étapes parce que j'ai eu toute cette période où du coup, cette amie m'a amené des clés pour mieux comprendre. Après, j'ai eu une grosse pause où je regardais plus du tout parce que j'étais à fond dans mes études et j'étais repartie que sur de la fiction plutôt américaine parce que sûrement plus courte et du coup, j'avais beaucoup plus de temps d'avaler plus de séries ou de films américains. Et je suis revenue des années plus tard, facile 7 ou 8 ans plus tard,
quand même.
Avec le même réalisateur. Et c'est lui qui m'a refait plonger. J'ai vu un de ses films, pareil, qui avait réussi à arriver discrètement en France, qui arrivait à se faire voir en France. Je l'ai regardé en me disant, tiens, ça fait longtemps quand même que je suis pas retombée dans la culture Bollywood. Et là, j'ai vu ce film, même réalisateur. Je me suis dit, bon, bah, le mec, il fonctionne toujours aussi bien. Je suis repartie comme en 14. Et je fais, allez, c'est parti. Et du coup, je ne lâche plus depuis, facile, 3 ans, là, que je suis à fond dedans.
C'est vrai qu'il a un succès vraiment à lui, parce que j'ai oublié de le préciser, pour arriver à être distribué en France, c'est tout un long cheminement. Lui, il a réussi, il était distribué en France par Diafana Film pour Devdas. Il est sorti en France en juin 2003, j'ai oublié de le préciser en intro. Donc, d'ailleurs, en te parlant et en visionnant le film, ça m'a rappelé que l'un des derniers films d'Asie du Sud que j'ai pu voir, c'est Ong Bak. C'est un film thaïlandais avec Tony Jaa et ça a été distribué par un certain Luc Besson. Pour que ça arrive chez nous dans nos frontières françaises, c'est parce qu'un producteur a acheté les droits de les diffuser. Donc tu as complètement raison, Julie, de souligner le succès de ce réalisateur dont tu vas me rappeler le nom pour éviter que je l'écorche.
De Sanjay-Lila Bhansali. Mais oui, la distribution en France est très difficile parce que déjà, le public n'est pas très adepte. Il faut remplir des salles pour pouvoir projeter les films. Et Devdas a réussi à arriver en France, notamment parce qu'il s'est fait remarquer qu'il est passé par le Festival de Cannes, ce qui était quelque chose de totalement nouveau. Un film Bollywood n'était jamais arrivé jusqu'à Cannes. Et lui est arrivé, et c'est d'ailleurs comme ça que Aishwarya Rai est devenue l'une des ambassadrices du Festival de Cannes.
Et qu'elle est devenue, si je dis pas de bêtises, dans mes souvenirs, parce qu'un visage pareil, on s'en souvient évidemment. Elle était Jerry L'Oréal aussi à un moment donné, c'est devenu...
Tout à fait, ouais, c'est les Jerry L'Oréal pour la partie Inde, de la même façon que Eva Longoria pour les États-Unis.
J'ai reçu une lettre de Devdas. Il écrit pour dire qu'il rentre de Londres aujourd'hui.
C'est vrai?
Oui.
Mais c'est merveilleux. D'où je t'ai entendu? Devdas est de retour.
Devdas? Je ne vous crois pas, ma tante. Je suis sûr que ce n'est pas vrai.
Si, c'est
vous
vrai.
Vous faites torcher, mère.
C'est ce qu'il écrit dans sa lettre.
Fais-moi cette lettre. Mère, je suis
mal. Je suis si heureuse. Mon dame chéri rentre à la maison.
C'est
allez
pas
vite
vrai.
Annoncer la bonne nouvelle à votre frère. Ma tempête est de retour.
Félicitations,
je suis content pour vous, madame.
Cesse de pleurer, Dana. Tu crois que c'est en pleurant qu'on se réjouit pour quelqu'un?
Pouvez-vous, s'il vous plaît, me promettre que c'est moi qui irai chercher Monsieur Dev?
C'est promis.
Donc ouais, c'est surtout depuis 3 ans donc que tu as repris ce rythme effréné de mater des films Bollywood. Alors on va essayer d'explorer un peu l'univers. Et pour prolonger la question précédente, comment on peut définir Bollywood pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce que c'est? Pourquoi déjà ce nom Bollywood si proche d'Hollywood?
Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de confusion en plus autour du terme Bollywood. Alors Bollywood, c'est pour faire le mix entre Bombay, qui aujourd'hui s'appelle Mumbai, à l'époque c'était Bombay quand c'était la période coloniale, et donc Hollywood, parce que l'Inde a été un des premiers pays qui a été très très intéressé par le cinéma quand il est arrivé, quand il a été importé par les Britanniques, et ça a pris tout de suite une très grosse ampleur, et ils ont aujourd'hui un des plus gros studios mondiaux pour les films. Et donc voilà, c'est vrai que c'est devenu Bollywood, avec ce mélange entre Bombay et Hollywood. Et contrairement à ce que la majorité pense, ça ne représente pas l'ensemble du cinéma indien. Ça représente le cinéma indien, mais qui est en langue hindi. Parce qu'un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, en Inde, il y a à peu près 200 voire plus, 200-300 dialectes différents. Et l'hindi, il n'y a que 40% de la population qui le parle. Ce qui fait qu'il y a 60% de la population quand même qui ne comprend pas les films Bollywood. Donc du coup, ailleurs en Inde, il y a d'autres types de cinéma. Donc il va y avoir le cinéma Kollywood, le Tollywood, en fonction des différentes langues en fait qui vont être parlées, le Bengali, le Tamoul, etc. etc. Et donc, chose qui est assez amusante, entre guillemets, c'est que voilà, les films indie, donc qui sont les plus connus puisqu'ils appartiennent à Bollywood, eh ben, ils vont être soit faits en remake ailleurs dans le pays avec les propres acteurs locaux, soit ils vont être doublés dans la langue qui est le plus parlée quelque part en Inde. Et inversement, il y a le cinéma du Sud qui a une grande part du marché également du cinéma en Inde. Et c'est pareil, certains films vont être repris par Bollywood pour faire des remakes ou alors pour être doublés. Parce que voilà, dans le même pays, tout le monde ne parle pas la même langue.
Ouais, c'est super clair expliqué comme ça. Et d'ailleurs, pour synthétiser, en gros, t'as Calcutta à l'est, t'as New Delhi au nord, t'as Bombay au sud-ouest, si je puis dire. Donc, ça va pas toucher le public de la même façon, notamment de par la barrière de la langue ou le fait que ce soit un original ou une adaptation, donc.
Absolument, oui, oui, oui. Et même les cinémas, d'ailleurs, ne sont pas tout à fait pareils. Ils ont pas les mêmes approches. Le cinéma du sud est très politique, très politisé. Et d'ailleurs, à tel point qu'il y a quand même des acteurs et actrices, un peu comme Chwarzy, qui finissent par rentrer en politique, par devenir les gouverneurs des États du Sud. C'est un truc absolument incroyable. Je veux dire, si demain on avait Alain Delon qui devenait président de la République, ça nous paraîtrait complètement dingue. Mais là-bas, ça se fait parce que le cinéma du Sud est vraiment très politique, alors que le cinéma du Nord l'est un petit peu moins et plus commercial, on va dire.
Comme un certain Reagan qui est ancien acteur et qui est devenu président des États-Unis. Je vois très bien ce que c'est. On va parler de ton lien du coup avec ce film. Tu m'expliques le premier visionnage. Donc tu avais 18-19 ans.
C'est ça.
Il y a eu cette période de longue pause, d'accord. Tu t'es mise à revoir le film, à quel moment, à quelle période? C'était après ces 7 ans de disette, si je puis dire?
Oui, oui, il a tout de suite fait partie des premiers films que j'ai revus quand j'ai repris, parce que bah, déjà j'étais retombée sur le réalisateur et je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai que quand même, c'était le premier réalisateur que j'avais croisé dans l'univers Bollywood, j'ai vraiment envie de le revoir, j'avais de très bons souvenirs, c'était le plus connu, donc c'était vraiment avec plaisir que je l'ai revu dans mes premiers visionnages après toute cette période voilà, sans Bollywood. »
Quand tu le vois une deuxième fois, tu te dis que c'est plus long, d'accord, mais quand même, est-ce qu'il y a eu des scènes que tu as pris plaisir à revoir et à te dire « Ouais, quand même, celui-là, il a une place particulière pour moi, parce qu'aujourd'hui, tu as choisi de parler de Devdas. » Quels passages dans le film font que celui-là a une place particulière dans ton cœur, dans tous les films de Bollywood que tu as pu voir?
Eh bien, il y a cette scène qui a fait que j'ai voulu voir justement le film, qui est la fin, la dernière scène, qui est le climax de Devdas. Donc j'en dis pas trop
sans
pour
spoiler,
pas...
Hein.
Sans spoiler, je ne dis rien. Mais du coup, c'est ça qui était assez marrant, c'est qu'en fait, j'ai découvert ce film par sa fin. Et il faut savoir que ce réalisateur, donc Sanjay Leela Bhansali, sa spécialité, c'est vraiment d'avoir des très gros climax à la fin de ses films. C'est là où ça révèle tout. En gros, vous voyez la fin, vous savez ce qui s'est passé dans le film. C'est le point culminant. Et c'est toujours vraiment très travaillé, c'est très émotionnel, ça vous prend. Et moi, j'ai donc commencé par la fin. Et c'est en voyant la fin, je me suis dit, ok, il faut que je voie depuis le début maintenant. Parce que ça m'a tellement marqué. Et puis évidemment, je ne pourrais pas parler de Bollywood sans parler des passages chantés et dansés. Il y a un système un peu comédie musicale. Et pareil, ce que j'adore dans ce film, sans exception, c'est toutes les chansons et toutes les danses. Et ce sont des passages très importants pour le cinéma Bollywood. C'est limite les passages les plus travaillés dans un film, parce que d'ailleurs, ils sortent avant le film. Et c'est le succès des chansons qui vont faire que les salles vont être remplies ou pas remplies.
C'est important d'ailleurs de le souligner, l'aspect chanté. Est-ce qu'il y a des passages, des chansons qui ressortent et vraiment qui te marquent plus que d'autres? Il y a par exemple la première chanson... Il y a « Mon amant est tellement cruel », il y a la chanson de Radha et Krishna qui célèbre l'amour. Enfin bref, quelle chanson tu pourrais extirper du film?
L'une des plus belles et des plus travaillées, et qui d'ailleurs en général finit dans à peu près toutes les interviews journalistiques à la TV quand il faut prendre un extrait de Bollywood, c'est cette chanson-là qui ressort, c'est « Derola, Derola ». qui est le duo où dansent nos deux héroïnes, qui sont des excellentes danseuses, qui plus est, donc Aishwarya Rai et Madhuri Dixit, celles où du coup elles font une cérémonie et qu'elles vont chanter ensemble leur amour de Devdas, et où il y a un nombre de figurants incroyables, plein de danseurs et de danseuses, c'est magnifique, c'est coloré, c'est toute une harmonie, cette chanson elle reste en tête. Alors là encore, c'est assez spécial parce que aujourd'hui, quand on connaît pas, le timbre de voix peut sembler assez suraigu. C'est vrai que c'est. Oui. Il faut comprendre que c'est pareil, les chanteurs et chanteuses de Bollywood, ce sont des personnalités à part. Ils sont qu'une dizaine ou une vingtaine à toujours revenir sur les différents films et donc ça tourne. Donc il y a toutes les années 2000 où on va retrouver ce type de chanteuse avec une voix très suraiguë. Qu'aujourd'hui, si on regarde d'autres films, ça passe un peu mieux peut-être pour nos oreilles occidentales parce que ça a des timbres de voix un peu plus graves. Je sais pas si toi, ça t'a un peu écorcher les oreilles en écoutant.
Sincèrement, ça passait parce que c'est. Il y a une belle alchimie entre les deux dans cette scène que tu décris. Et tous les danseurs qui virevoltent autour d'elle, c'est vraiment très esthétiquement parlant. C'est très beau, tout simplement. Et même si elles vont fort dans les aigus, cette scène est dans le dernier tiers du film, j'ai envie de dire. On a déjà eu largement le temps d'assimiler avec tous les chants précédents. Donc franchement, c'est une scène qui est quand même très agréable à regarder. J'ai pas tout aimé dans ce film, mais ce passage-là, pour le coup, pour moi, on pourrait l'ajouter aussi comme dans les éléments faisant partie d'un point culminant, en fait. Mmh. C'est super joli parce que c'est plein d'amour, finalement, pour le personnage principal. La transition d'ailleurs est toute trouvée pour évoquer la romance. Parce qu'en regardant le film, j'ai pas pu m'empêcher de me penser aux clichés aussi qu'on a sur Bollywood. Est-ce que c'est pas kitsch ? Est-ce que c'est pas cucu ? Moi j'aimerais beaucoup avoir ton regard sur l'histoire d'amour. Que ce soit la fille de 18 ans que tu étais ou celle aujourd'hui qui a 30 ans, ça m'intéresse d'avoir le regard que tu as sur la romance qui est dépeinte dans Devdas.
Alors la romance dans Devdas, on la retrouve assez dans l'ensemble des films Bollywood, sachant que Devdas c'est quand même aussi une adaptation d'un bouquin qui est sorti en 1917, donc forcément c'est une romance un petit peu éculée. Ce qui est assez toujours perturbant aussi pour des occidentaux, c'est que les romances à l'indienne, il n'y a pas le temps en fait de la développer. C'est-à-dire que souvent, on va se dire « Ah, il y a un coup de foudre » et ensuite, ça y est, ils s'aiment pour la vie et il se passe tout un tas de drames derrière. Et au début, on se dit « D'accord, mais à quel moment ils sont tombés amoureux ?» Mais c'est vrai que souvent, il n'y a pas le temps. Ils croient beaucoup à cette histoire un peu de coup de foudre. Bon, et il y a aussi le contexte un peu culturel qui fait qu'il y a encore beaucoup de mariages arrangés là-bas. On est à 80% de mariages arrangés, donc l'amour, c'est pas l'amour occidental. Donc c'est assez perturbant. Là, dans Devdas, c'est vrai que... Je sais pas, disons qu'il y a des gens aussi qui vont aimer le style un peu Jane Austen. C'est très fleur bleue aussi, c'est beaucoup d'amour, c'est sucré, nanana. Ceux qui aiment Roméo et Juliette, on dira ouais, bah c'est pareil, c'est un peu cucu, hein. Ils sont mignons, ils s'aiment, et puis il y a les familles qui empêchent tout. Bon, je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun vis-à-vis des romances et des histoires d'amour, mais oui, clairement, dans Bollywood, on aime les romances bien sucrées, très mignonnes, c'est le coup de foudre, ils vont s'aimer pour la vie, il n'y a plus que eux, c'est foutu, voilà. Bon, ça dépend de la sensibilité de chacun, et moi, j'avoue, j'avais bien aimé, parce que j'ai tendance à aimer les tragédies, et du coup, ces romances tragiques, où on sait que, je sais pas, ça amène quelque chose d'encore plus passionnel, ça investit encore plus, parce qu'on sait que ça peut pas se faire, et il y a une espèce de frustration, j'aime bien ressentir cette frustration de ce couple qui ne peut pas se faire de toute façon. Je suis peut-être sadique.
Je vois ça. Toi, la chanson d'Erita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général, tu t'es en plein dedans, toi, tu kiffes, quoi.
Voilà, c'est mon petit côté sadique.
Ça me fait penser, j'ai pas pu m'empêcher de noter deux répliques hein, quand même. C'est Paro donc, qui déclare, par rapport à Devdas, « Devdas était le corps de l'âme que j'habitais ». Waouh. Et autre citation, j'aime Paro, grand comme ça, tout simplement. Et il fait les gestes grand comme ça. Ça interpelle quand même. Je me suis dit, waouh, quelqu'un qui n'est pas éduqué à Bollywood. Il y a eu autre chose aussi qui est marquant, c'est la chasteté, quoi. Tu te dis, mais quand est-ce qu'ils vont se rouler des pelles?
Ah oui, ah mais alors ça, c'est toute une histoire. Alors juste pour revenir sur les deux répliques que tu as données, c'est vrai que s'il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à Bollywood, c'est le côté... poétique et romantique. Souvent dans les dialogues, t'as sûrement dû le voir dans le film aussi, il y a beaucoup de métaphores. Je pense notamment, puisqu'on parle de sexe, à un moment donné, Devdas est avec Chandramukhi et il a un verre qui est plein à rabord.
Qui est une courtisane, hein. On l'a pas
oui,
précisé depuis
c'est vrai.
Tout à l'heure.
Donc c'est une prostituée, hein, disons-le. Hein.
C'est, voilà, mais elle est assumée, hein, d'ailleurs, qui est dans la maison des plaisirs.
C'est ça. Devdas a un verre qui est rempli à rabord et il dit « Je suis comme ce verre ». Et cet alcool, c'est comme mon amour pour Paro. Mon cœur est rempli à ras-bord de mon amour pour Paro. Et Chandramukhi lui dit... parce que sur le coup, elle lui propose de remplir son verre. Il lui dit, maintenant, tu vois, je suis déjà rempli à ras-bord. Pourquoi voudrais-tu le remplir? Et elle, qui se meurt d'amour vraiment pour lui, hein, avec un gros syndrome de l'infirmière, lui dit, oui, mais moi, je suis comme cet alcool. Au moins, si je le renverse, il aura au moins la chance d'effleurer ce verre. Et donc, c'est déjà très métaphorique. Et là, il lui dit, alors dans ces cas-là, débordons. Et ça s'arrête sur ça, où il se renverse en arrière. Exact. Ce n'est pas montré, mais ça signifie que, très clairement qu'en fait, ils vont finir par entretenir une liaison.
Allons consommer, justement.
Voilà, justement. Et c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Inde, il y a un système de censure. Il faut savoir que dans ce pays, ne serait-ce que dans la rue, on n'a pas le droit de se tenir la main ou de s'embrasser. C'est considéré comme un attentat à la pudeur et on peut se faire arrêter et emprisonner pour ce genre d'effusion. Alors, ils sont assez calmes avec les touristes parce que vous imaginez bien que les Occidentaux qui arrivent, qui se roulent des pelles, bon, ils sont regardés quand même de travers, mais ça ne se fait vraiment pas. C'est vraiment très mal vu. C'est considéré comme étant privé et c'est assez amusant quand on regarde certains films d'ailleurs où des fois des personnages sont en train de s'effleurer. Et il y en a un autre qui va dire « Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites pas de... Mais prenez une chambre, en fait !» Et tu dis « Calme, il lui a saisi le petit doigt !» Mais vraiment, maintenant, il y a des bisous à l'écran. Bon, mais avant, c'était très très mal vu. Et Shwaria, dans un film des années 2000, dans le Doom 2, embrasse Hrithik Roshan, qui est un autre acteur. Ça a fait un scandale monumental. C'était très mal vu. La belle famille s'en est mêlée en disant que c'était scandaleux d'avoir fait ça, que c'était dépravé, alors que c'est pour un film, hein, quand même.
On a l'impression que tu parles du Nipplegate. C'est...
Ouais, voilà. Et effectivement, du coup, tout doit toujours être très suggéré pour passer la censure. Donc c'est pour ça que, comme par hasard, il pleut assez souvent, ou les gens se retrouvent à mouiller pour que les vêtements collent à la peau. Ou alors, c'est très métaphorique. Par exemple, il y a une des chansons, celle, je sais pas si tu vois, où Devdas et Paro se retrouvent à la cascade. C'est une scène entière de métaphores qui signifie qu'ils sont en fait en train de coucher ensemble et de perdre leur virginité ensemble. Mais tout est obligé de passer de manière métaphorique. Donc ça va être de se mouiller, ça va être de retirer les bijoux, et notamment un des bijoux de chasteté autour de la taille de Paro, ça va être de lui arracher son voile, ça va être de rentrer l'épine dans le pied et de voir du sang qui coule. Et effectivement, ils vont prendre des postures typiques de Radha et Krishna, qui sont les amants par excellence, en même temps que la mère est en train de chanter justement l'histoire de la mythologie de Radha et Krishna. Voilà, comme on ne peut pas montrer de sexe et vraiment d'affection et de bisous à l'écran, les réalisateurs sont obligés d'avoir tout un tas de chemins détournés pour réussir. Et donc, quelque part, finalement, ça les oblige à faire des scènes qui sont très poétiques, très sensuelles. Il y a beaucoup, beaucoup de sensualité dans Bollywood. Et ma foi, c'est pas si déplaisant que ça de changer un petit peu. Et c'est même assez marrant parce que quand on prend cette habitude, quand d'un seul coup on arrive sur des films récents où les personnages s'embrassent, on fait « Oula, qu'est-ce qu'ils font ?» D'un seul coup, on est retourné en arrière, on fait « Oula, oula, mais attendez, mais ils sont un petit peu dénudés, qu'est-ce qui se passe ?»
Dans ton esprit, ça a changé, ton regard est plus habitué finalement aux traditions et à la culture indienne. Tu ne portes de moins en moins finalement un regard européen sur la fiction. Et comment devraient se comporter les personnages dans une fiction? C'est super intéressant ce que tu dis.
Non mais exactement, alors que à côté de ça, tu vas regarder une série américaine où maintenant le nu est omniprésent et est même un peu racoleur, où t'as des scènes gratos de nu juste pour faire fantasmer le spectateur, parce que voilà, on dit ah bon ok, on a mis tel acteur parce qu'il fait fantasmer un peu tout le monde. Il n'y a pas cet effet, tu le regardes, tu dis oh bah c'est normal, mais en Bollywood, d'un seul coup tu fais oh mais... ils sont vraiment en train de... Il y a une langue là qui vient de passer. Oh, mais attendez, ils sont en train de coucher ensemble.
Aimer, ce n'est pas seulement recevoir, il me semble. J'ai très souvent fait commerce de l'amour, mais je n'ai aimé qu'une seule fois.
Chandramukhi. Si l'on verse du vin dans un verre qui est déjà plein, qu'est-ce qui va arriver ?
Il débordera, bien sûr.
Je suis moi aussi plein du nom de Paro et Devdas, et comme ce verre, il déborde déjà.
Moi, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir des fous rires à certains moments. J'en suis navré, mais c'était trop drôle. Il y a une scène où Chandramukhi, donc quand Dev la rencontre, à un moment donné, elle se met, Chandramukhi, à casser un miroir avec ses cheveux. Mais j'ai explosé de rire.
Et non, mais c'est normal, c'est normal.
Et encore un spoiler, désolé. Et là, j'ai vraiment encadré, là, j'ai mis un grand encadré. Scène choc, coup de bracelet de Dev sur Paro pour créer une cicatrice qui scellera ainsi leur amour. Enfin, toutes ces métaphores-là, elles restent risibles pour toi ou le côté poétique prend le dessus désormais ?
Le coup des cheveux qui brise le miroir pour sous-entendre que d'un seul coup, le cœur de Chandramukhi s'est brisé en voyant Devdas et que du coup, elle sera éperdument amoureuse d'elle. Ça fait vraiment rigoler. Ça me fait toujours rigoler, sachant que ça fait vraiment partie des codes, encore une fois, du cinéma où, des fois, ils n'aiment pas la subtilité. Quand on pense à La Famille indienne, ou même tout un tas d'autres films, quand par exemple, ils vont annoncer quelque chose de grave, vous aurez un gars derrière qui va taper sur un tambour pour donner une impression de coup de tonnerre, comme si c'était Tintin. Ça, c'était une révélation choc. Et c'est vraiment subtilité zéro. Il faut appuyer des fois, mais à fond la caisse, au cas où t'es pas bien compris ce que ça voulait dire. Mais inversement, oui. La scène où, au premier regard, cette scène où du coup il la frappe avec un collier au front, la première fois que tu vois ça, tu te dis oula, violence, envers une femme, ça va, tranquille, ça passe crème. Alors, la société indienne est encore assez misogyne, il y a vraiment des films qui sont très problématiques. Et les violences, notamment, que ce soit envers les enfants, hein, les hommes, les femmes, peu importe, les violences domestiques sont encore très banalisées. Et sur le coup, tu vois cette scène, tu fais « Allez, ok, bah, c'est comme ça que tu montres ton amour, en frappant celle que t'aimes. » Ok, sur le coup, c'est... cette scène rebute beaucoup. Dans l'idée...
Ah, moi, j'ai sursauté, hein, je te comprends. Tu te dis... Qu'est-ce qui se passe là ? Jusque-là, c'était sage et qu'est-ce qu'on veut renvoyer comme image à ce moment-là ?
C'est ça. C'est très mal amené parce que finalement, derrière, il y a encore beaucoup de symbolique. Tout le long du film, Devdas compare Paro à la Lune. Dans la mythologie indienne, la Lune, c'est un peu l'équivalent de Vénus pour nous. C'est vraiment l'astre sublime par excellence. Et Paro est tellement orgueilleuse qu'il dit même qu'elle est carrément plus belle que la Lune puisque elle n'a pas de cicatrice. Alors que la Lune, à cause des cratères, en a. Et donc là, il y a un premier message, c'est qu'il va lui faire une cicatrice et lui dire « Maintenant que tu redescends d'un cran, tu vas être comme la lune, tu seras belle, mais avec des cicatrices. » Et en plus de ça, là où il faut connaître encore un peu la culture indienne, c'est que du coup, il va lui étaler le sang qui coule du front sur l'arrêt de ses cheveux. Et c'est l'équivalent à un acte de mariage où on met le vermillon sur l'arrêt des cheveux des femmes pour dire « Je viens de t'épouser. » Et donc là, ils viennent de sceller presque un mariage secret. Comme Roméo et Juliette, d'ailleurs, qui scellent un mariage au secret. Mais c'est vrai que sur le coup, quand on n'a pas toutes les lectures de cette scène, la seule chose sur laquelle on pense, c'est « Ok, il y a un côté possessif du style « Je vais te marquer et tu seras à moi pour jamais » et ça sonne un peu plus comme « Tu es une bête, tu m'appartiens ». Et sur le coup, tu dis « ça peut te refroidir en plein milieu de ton visionnage ».
Exactement. Et même si le personnage de Paro a du répondant, ne se laisse pas forcément faire, aimer Devdas, c'est aussi se soumettre à lui. Il y avait un passage comme ça où elle l'évoque « je suis prête à me soumettre par amour, etc. » Mais c'est assez déroutant, en fait, avec notre regard aujourd'hui des années 2020. C'est assez étrange. Mais bon, faites-vous votre propre opinion. Hein. En plus, avec ton regard, Julie, ça va justement donner des clés à ceux qui potentiellement vont le regarder à mieux comprendre le pourquoi du comment.
Est-ce que ça va ? Sortir ainsi en pleine nuit ? T'as pas eu peur ?
Maintenant, je n'ai plus peur de personne ni de rien.
Même pas de la calomnie ?
Non. Quand je suis auprès de toi... Je ne crains pas non plus qu'on me calomnie.
Et pourquoi venir à cette heure ?
Pourquoi un fleuve se jette-t-il dans la mer ? Et le tournesol se tourne-t-il vers le soleil ? Et cette Paro,
Pourquoi, malgré sa fierté et l'honneur de sa famille, s'aventure-t-elle dehors en pleine nuit? Et pourquoi vient-elle se réfugier au pied de son Dev? À toutes ces questions, il n'y a qu'une réponse, Dev.
Peut-être qu'il n'y a qu'une réponse. Mais il y a trop de questions.
Tu vois ce film, tu tombes amoureuse de Bollywood, tu regardes énormément de films depuis toutes ces années, ton ami a partagé ça avec toi. Est-ce qu'à ton tour, tu as aussi le souci de faire découvrir cet univers de Bollywood à d'autres personnes?
Eh bien, c'était compliqué. Parce que, effectivement, de la même manière que moi, je n'avais absolument pas connaissance de Bollywood, la plupart des gens autour de moi n'avaient aucune idée de ce que c'était, ou alors avaient vu arriver à cette période-là Devdas, avaient vu quelques extraits à la TV, et généralement, c'est assez peu flatteur quand ça passe à la TV, c'est tout de suite dit « Ah, c'est beau, c'est grandiose, mais alors, qu'est-ce que c'est kitsch, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que ça chante et que ça danse ?» Et on a l'impression qu'on va se taper une comédie musicale pendant 3 heures, ce qui n'est absolument pas le cas. On a, alors sur les plus anciens, on a vraiment plus de chansons comme là sur Devdas, mais sur les plus récents, il y a maxi 2 à 3 chansons dans les films. C'est vraiment une très petite part quand même du film. C'est pas du tout des comédies musicales, c'est pas La La Land. Du coup, moi, tant que j'avais cette amie et une autre qui était d'origine mauricienne avec qui j'ai changé dessus, bon, ça allait. Et puis, le temps faisant, moi, j'ai beaucoup déménagé pour mes études, etc. Je me suis retrouvée à être toute seule dans cet univers. Et là, c'est une frustration énorme parce que tu vois des films, t'as envie d'échanger dessus et il y a personne. Personne ne regarde, ça n'intéresse personne, c'est très difficile. Et puis, toute cette période-là, donc... Moi, j'avais plus accès aux DVD des copines. Le streaming n'était pas encore autant développé, encore moins pour des films indiens. Et donc, du coup, ça m'a repris en même temps que ça s'est démocratisé sur Internet, où c'est devenu beaucoup plus simple d'y accéder. Et là, je me suis dit, bon, je suis vraiment toute seule, il faut que je trouve quelqu'un pour faire rentrer dans ma secte. Et donc, du
attention.
Coup, j'ai travaillé au corps.
Qui est rentré dans ta secte, mon Dieu?
Eh ben,
qui a été enrôlé?
Alors j'ai été très patiente parce que c'est ma meilleure amie depuis 15 ans. Et donc j'ai réussi au bout de 11-12 ans à la faire rentrer dedans. J'ai été très patiente. Hein. Mais voilà, effectivement, j'avais retenté plusieurs fois. Je me dis bon, ça marche pas. Et puis un week-end, elle est venue. Je lui fais « Allez, s'il te plaît, regarde un film avec moi et tout. » Donc je lui mets un film. Je ne lui ai pas mis Devdas parce que je savais que 3 heures, elle allait péter un câble. Mais du coup, je me dis « Allez, je tente. » Elle regarde, elle me fait « Bah franchement, c'est pas si mal. » Et puis la voilà partie, elle est rentrée dedans et elle n'en est pas sortie.
Et c'est pas tout, puisque vous êtes très amis, très fans de Bollywood. D'ailleurs, je me demande comment elle est arrivée, cette idée de podcast derrière.
Ouais. Parce que donc du coup, on était que toutes les deux dans le délire Bollywood. Nous, on échangeait dessus et puis c'est vrai qu'on est déjà très auditrice de d'autres podcasts. Moi, j'en écoute énormément. Et un soir, mais vraiment, il devait être minuit, on fait « Oh, viens, pour rigoler, on fait des faux épisodes de podcast juste pour nous, parce que moi, je voyage beaucoup. » Et donc, du coup, sur mes trajets, je me dis « Tiens, ça pourrait être marrant d'écouter ce que nous, on raconte sur ces films-là, et puis ça nous fera des souvenirs, parce qu'au fur et à mesure, quand tu commences à arriver à 50, 60 films, tu finis par oublier un petit peu ce que t'as ressenti en les voyant. » Et donc, entre minuit et 2h du matin, nous voilà en train d'enregistrer des épisodes rien que pour nous, complètement en vrac, c'était un peu n'importe quoi, mais qui nous faisait rigoler. Moi, je les gardais sur mon téléphone, je les écoutais sur mes trajets, et c'était juste pour nous, en fait. On s'était dit juste pour nous, ce sera marrant. Et puis, donc d'un seul coup, ma partenaire, donc Mélanie, me dit « 2020, viens, pour de vrai, on se lance publiquement ». Je lui fais « Mais tu rigoles, jamais personne va écouter ce qu'on raconte, c'est impossible, c'est trop de niche, ça n'intéressera personne. » Et elle me fait « Allez, mais viens juste pour essayer. » Je lui dis « D'accord, mais on sort pas les trucs qu'on avait fait en pleine nuit, qui n'avaient aucune logique. Non, on retravaille ça correctement. » Et on
un
essaie,
vrai conducteur, ouais.
Ouais, voilà, une vraie ligne, un vrai nom, un vrai logo, etc. Allons-y. En fait, c'est né aussi d'une grosse frustration qui est qu'il n'y avait pas de podcast sur Bollywood. Et moi, j'attendais que ça, de trouver quelqu'un qui en parle, qui puisse me donner des idées de films. Parce que c'est tellement vaste. Bollywood, c'est vraiment comme Hollywood. C'est tellement vaste que je manquais d'inspiration.
Tu devais écouter des podcasts du coup anglophones, je suppose, puisqu'il n'y en avait pas en France.
Eh ben, il n'y en a pas tant que ça non plus. Je voulais en écouter des anglophones. Il n'y en a pas vraiment. Il doit y en avoir un. Et sinon, c'était un podcast indien. Mais encore, faut-il trouver un podcast indien qui parle en anglais. Mais en fait, il n'y avait presque rien. Et du coup, je me suis dit, quitte à être frustrée, je vais le faire ça dans l'autre sens. C'est moi qui vais donner des idées aux autres. On va lancer un truc. Non, et mon idée, c'était aussi... Enfin, notre idée, c'était de se dire, j'ai envie de donner envie à ces gens qui pensent que Bollywood, ce n'est que ça, de se rendre compte qu'en fait, non, c'est hyper vaste et ce n'est pas que de la romance, du kitsch. Au contraire, il y a des films d'horreur de Bollywood, il y a des films féministes de Bollywood, je trouve d'ailleurs que c'est les meilleurs qui existent et qui sont largement au-dessus du cinéma américain et français. Et là tu te dis, ah mais il y a une palette tellement vaste, ne restez pas bloqués sur la famille indienne s'il vous plaît.
On peut la citer, hein. D'ailleurs ta camarade c'est Mélanie qui viendra d'ailleurs dans cette émission prochainement et avec qui vous animez du coup Bollywood versus.
Exactement, c'est ça, d'essayer de faire un versus, quelque chose qui est connu pour les gens justement. Donc le plus classique, le premier épisode par exemple, c'est avec le film Thugs of Hindostan. C'est littéralement, alors c'est pas un remake pur et dur, mais c'est très très inspiré de Pirates des Caraïbes. Et donc du coup, c'est très amusant de regarder ce film. D'ailleurs, c'est le film que je recommande à chaque fois aux personnes qui connaissent pas. Je leur dis, vas-y, tente celui-là, vu que Pirates des Caraïbes, généralement, ça parle à tout le monde. Et ça ne loupe pas, en général, tout le monde est très content de l'avoir vu. Et je me dis, bon, ok, c'est très bien. Mais voilà, il faut essayer de raccrocher un petit peu les gens à ce qu'ils connaissent.
Moi, par exemple, du cinéma, enfin des personnalités indiennes, pour parler de ce à quoi on peut se raccrocher, bon, on pense évidemment à un Dev Patel de Slumdog Millionaire, on pense à une Priyanka Chopra, qui est devenue Madame Nick Jonas, du coup elle est très connue côté people, mais c'est avant tout une comédienne qui est issue de Bollywood et moi j'ai connue dans Quantico, une série aux États-Unis. Je pense à ces visages-là. J'en ai d'autres, mais qui ne me reviennent pas forcément à l'esprit. Justement, quel film de Bollywood avec des personnalités qui ont émergé en Europe ou aux États-Unis on pourrait recommander? J'espère que j'anticipe pas sur Taroko.
Alors, c'est amusant parce qu'en vrai, Dev Patel n'appartient pas du tout à l'industrie Bollywood. C'est un visage indien qui... lui, il est britannique.
Lui, britannique.
Ouais, britannique, ouais. Je crois. Et il est surtout sorti avec effectivement Slumdog Millionaire, qui n'est pas un Bollywood, mais un film britannico-indien. Mais en fait, lui, il n'appartient pas du tout à l'univers Bollywood. Donc les gens se raccrochent à lui parce qu'il il a des origines, alors qu'il n'a vraiment rien à voir avec Bollywood. Et Priyanka Chopra, mine de rien, c'est pas non plus une des plus grosses figures de Bollywood non plus. Un petit peu, elle est quand même très connue, elle a fait beaucoup de films, elle a démarré dans Bollywood, mais effectivement, elle n'a jamais atteint le niveau de d'autres actrices qui sont vraiment au panthéon des actrices de Bollywood.
Tu peux nous en citer ?
Ouais, bien sûr. Alors, dans les grandes actrices, on a Kajol, qu'on retrouve notamment dans La Famille Indienne, pour les films qui sont assez connus. Il y a Rani Mukherjee, que personnellement, moi, j'adore. C'est une de mes actrices favorites. Bah, elle est aussi dans La Famille Indienne, mais elle a un rôle un peu secondaire. Donc, c'est pas trop ce qu'il a à mettre en valeur. Et dans les grands noms masculins, il y a évidemment Shah Rukh Khan, qui est dans Devdas.
Oui, Shah Rukh Khan. Attends, on s'est pas arrêté sur lui. Parce que le mec, il m'a quand même agacé pendant près de 3 heures. Il est trop beau gosse, ce mec. Non, mais il a tout. Il est beau gosse, il a le charisme. Il est quand même agaçant, ce mec-là.
C'est marrant que tu le trouves beau gosse, parce que franchement, la plupart du temps, quand tu commences à parler de Bollywood et de montrer Shah Rukh, la première réaction, c'est « Ah ouais, lui, mais franchement, il est carrément pas beau gosse. » Et tu dis « Finalement, lui, c'est surtout son charisme. C'est quand il joue. »
Exactement.
Honnêtement, quand tu le regardes en photo, tu penserais pas à lui. Moi, il me fait penser à un autre acteur que j'aimais beaucoup, c'était Alan Rickman, qui physiquement n'avait rien de spécial, mais un charisme de malade dans ses films. Et Shah Rukh, c'est un peu pareil. Physiquement, c'est vraiment pas le canon de beauté comme un Hrithik Roshan qui a des yeux bleus, un corps parfait, etc., qui est vraiment un mannequin, d'ailleurs. Lui, c'est quand tu le vois jouer que là, il y a une magie qui s'opère. Où tu te dis, ah oui, je comprends comment ce gars est arrivé en haut. Sachant qu'il y a un truc, c'est aussi comme dans Bollywood, enfin comme dans Hollywood, c'est très familial. Il y a beaucoup de pistons, de père en fils, la notoriété des parents font la notoriété des enfants. Shah Rukh, c'est le gars qui est venu de nulle part. C'est le gars de très basse caste qui a fait son chemin jusqu'à arriver vraiment à être... Il est appelé le King Khan, c'est le roi de Bollywood. Au-dessus de lui, il y a Amitabh quand même, qui lui est le dieu de Bollywood. Attention.
Tu peux répéter le nom de ce dieu ?
Amitabh Bachchan, qui est dans La Famille Indienne. Bah, si vous voulez voir les plus grosses têtes de Bollywood, ils sont tous dans La Famille Indienne.
Très bien. Juste une petite précision, Alan Rickman, pour ceux à qui ça ne parle pas forcément, c'est évidemment le Hans Gruber de Piège de Cristal et bien sûr le professeur Rogue des Harry Potter.
Absolument.
होली में आई झिल मिलाती जुगनू की बारा सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात ढोल मंजीरे बजने लगे बड़ी डफली पट्ठा और ढुमक ढुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी ढुमक ढुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी जाने कहां से रासिर जाने आया छैला गिरधारी
Évidemment, quand on se plonge dans l'univers de Bollywood, ce qui nous attend derrière, c'est la découverte de l'Inde. Alors, je peux pas m'empêcher de me poser cette question, c'est à quel point derrière tu as eu le souci aussi de t'intéresser au pays plus généralement, à ses traditions, après avoir découvert les films de Bollywood ?
Et bien justement, moi, c'est les films qui m'ont permis de plus en apprendre, en fait, sur le pays. Tu démarres avec le film, parce que c'est vrai que là, je parle de Devdas, on est sur quelque chose, c'est plutôt la couleur, du style, c'est une romance, etc. Il y a des films qui traitent vraiment de problématiques propres à l'Inde, sur les mariages arrangés, sur la misère sociale, sur par exemple les sanitaires, le souci que aujourd'hui ils ont tous des téléphones mais ils n'ont pas tous un système de tout à l'égout, sur la condition des femmes beaucoup. Et il y a énormément de films qui sont des très bonnes portes d'entrée sur ce genre de problématiques. Et tu te dis, une fois que tu t'en vois un, tu te dis « Ah ça m'intéresse » parce que il y a un décalage, il y a forcément un décalage entre nous, notre culture et la leur, et donc ça donne envie de creuser. Et pareil, au niveau de leur histoire, moi, c'est grâce à des films où à chaque fois, je me suis dit, j'ai envie d'aller vérifier quand même la véracité historique, parce que, je vous l'ai dit, il y a des systèmes de censure, c'est très dirigé par la politique. Les films, pour certains, et notamment les films historiques, sont des grosses propagandes et font beaucoup de révisionnisme historique. Donc, il faut toujours aller vérifier ce qu'il en est derrière, et ça permet en fait de découvrir finalement l'histoire du pays, et je trouve ça absolument mais passionnant. Je pense notamment à un film que j'adore qui s'appelle Rangoon, qui se passe au niveau de la Seconde Guerre mondiale, et vraiment...
C'est connu ça, ça me parle.
Ah ouais, le nom de Rangoon ?
Oui.
Bah, Rangoon c'est une ville aussi, de la Birmanie, qui est en Birmanie. Du coup, à partir de ce film, je me suis rendu compte que... C'est vrai que nous à l'école, on apprend la Seconde Guerre mondiale, mais on regarde beaucoup l'Europe. Et en vrai, c'est une guerre mondiale, donc ça a impliqué tout le monde. Et quand tu regardes finalement le continent indien, c'est passionnant de voir ce qui s'est passé en termes historiques, puisque ça appartenait à ce moment-là encore à l'Angleterre, donc c'était une colonie. Ça a dû participer pour les Britanniques. Et dans le même temps, il y avait un début d'indépendance qui se commençait à se faire. Il y a eu des armées, des groupes armés qui se sont montés. Donc on a eu l'Indian National Army, donc c'était l'armée nationale indépendantiste qui a voulu en profiter. Et quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que pour eux s'en sortir, il a fallu qu'ils se rapprochent de la SS, de Hitler, qu'ils ont touché des armes, des fonds, etc. Et donc d'un seul coup, tu te rends compte que nous, par exemple, on va très mal voir forcément les Allemands, le côté hitlérien, mais pour eux, certaines figures qui étaient SS ou qui étaient du côté nazi sont des figures héroïques, sont des figures qui sont célébrées aujourd'hui. Et sur le coup, pour nous, c'est hyper choquant. Moi, quand d'un seul coup, je découvre que Subhash, Sandra Bose, c'est une figure héroïque, il a ses statues, etc. C'est la figure indépendantiste. Et que toi, tu vois qu'en fait, lui, il a créé la SS indienne et qu'il était proche du parti nazi. Oh, sur le coup, c'est... Wow.
C'est super important, justement, de faire ces recoupements-là. Et on y revient, c'est de l'éducation à l'image. De ne pas prendre tout ce qui est raconté pour argent comptant, en fait.
Exactement.
Et ça, c'était une chose qui te tenait à cœur et que tu as pu développer de par tes recherches. Juste une chose, tu recherchais à quels endroits sur Internet ? Dans des bouquins ? Dans des articles de presse ?
Alors, un petit peu de tout, parce que c'est comme ça que je travaille aussi en faisant de la recherche scientifique. Au départ, comme tout le monde, tu vas un peu sur Wikipédia pour essayer de voir un peu les grandes lignes. Donc plutôt en anglais, parce que c'est plus fourni que le Wikipédia français, ça c'est sûr. Tu commences par essayer de voir un petit peu ce qui se dit dessus. Tu remontes sur les sources qu'il peut y avoir dans les articles pour voir ce qui se fait. D'aller regarder les journaux aussi indiens, parce que l'avantage c'est qu'ils parlent beaucoup en anglais. L'anglais est une langue officielle en Inde, donc c'est assez facile quand on est à l'aise avec l'anglais d'accéder à de la documentation, d'aller regarder eh bien, des thèses ou des mémoires. Et puis après, il y a des ouvrages également, ou des documentaires. Mais c'est vraiment passionnant quand même, je trouve, d'un seul coup, de s'imprégner de cette culture et de voir toutes les différences vraiment sociales sur l'hygiène, sur la condition de la femme, sur le rapport, par exemple, aux règles, etc. Et l'histoire, ouais. Vraiment, l'histoire, c'est passionnant.
On va préciser hein, ton métier, Julie. Tu es docteur ingénieur en chimie. Donc la recherche te passionne en toutes circonstances.
C'est ça.
Pour parler de choses un peu plus concrètes, est-ce que tu as entrepris ou tu souhaites entreprendre un voyage du coup dans le pays? Bon, le contexte est compliqué en ce moment et d'ailleurs ils subissent de plein fouet la crise sanitaire. Mais est-ce que tu as pu entreprendre un voyage en Inde ou est-ce que tu souhaites le faire un jour?
Alors j'ai pas pu, mais c'est un projet effectivement. C'est un projet qu'on avait prévu avec Mélanie. Bon bah le contexte fait que on sait pas trop quand est-ce qu'on pourra y aller, mais oui, ça fait partie de nos objectifs de pouvoir y aller. D'autant que elle a sa famille qui a eu l'occasion d'y aller, qui a beaucoup apprécié, qui lui a montré des souvenirs de voyage et tout. Donc la frustration est d'autant plus grande. On se dit et nous quand est-ce qu'on va pouvoir y aller quoi. Après on sait que il y a quand même toujours une différence entre le cinéma et la réalité. On sait très bien qu'il y a des choses très belles qui sont quand même entourées de conditions et de misères humaines qui peuvent être très difficiles. Et d'ailleurs, l'amie qui m'a introduite à Bollywood à l'époque, quand j'avais 18-19 ans, avait passé 3 mois en Inde pour un stage. Et ça avait été un peu frappant et fulgurant, cette différence entre richesse et pauvreté qui se côtoient de très très près.
Devdas, c'est vraiment un film qui compte énormément pour toi. Avec le podcast qu'on vient de faire, comment tu résumerais en une phrase ce que tu dois au film Devdas? Comment tu résumerais ta relation avec lui?
Ça m'a ouvert sur toute une culture, sur tout un pays, sur une nouvelle religion, une nouvelle façon de penser, une nouvelle mentalité. C'est vraiment une ouverture. Je trouve que c'est ce genre de film, mais comme ceux que j'imagine qui regardent voilà, du drama coréen et qui d'un seul coup vont s'intéresser à la Corée, ou voilà, du film japonais ou chinois et d'un seul coup regarder l'Asie. C'est vrai que l'Asie est souvent très mal regardé d'un point de vue occidental, enfin c'est regardé de haut, ça a été beaucoup dénigré, on s'en moque parce que ce sont pas nos codes. Je pense par exemple au film Mulan, là, qui est sorti récemment de Disney, où tout le monde s'en est beaucoup moqué, et moi quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça ressemble tellement aux codes de films d'action Bollywood pour certains, ou de certains types de films chinois. Ne soyez pas méprisants, ce ne sont pas vos codes, ce sont d'autres codes. Pour moi, c'est vraiment une ouverture sur le monde que m'a apporté ce film, et en plus une ouverture un peu sur moi-même, sur voilà, bah, je ne pensais pas que 15 ans plus tard, je me dirais tiens, et si je me lançais dans un podcast public avec des gens qui pourraient m'écouter, c'était même pas imaginable. Voilà, d'un petit film, c'est parti très très loin.
Et c'est tout l'intérêt de ce podcast, c'est de vous montrer à quel point un film peut influencer vers tellement de choses en fait. Bah, on aura vraiment bien, je pense, passé en revue. Je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Non, à part que quand Paro se baladait dans le palais, j'avais l'impression qu'il y avait 100 portes, parce qu'elle ouvrait plein de portes.
Ah oui. Non, moi ce que je me suis beaucoup dit avec ce film, c'est que ça devait être l'été et qu'il devait faire chaud, parce qu'il y a tellement de fenêtres ouvertes qu'il doit y avoir des courants d'air de malade.
Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait trop de fenêtres, trop de vitres partout. Enfin, c'était très lumineux en tout cas. Ça, on peut pas dire le contraire.
Mais ouais, j'avais vu que les décors ont occupé une très très grosse partie du budget total. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont eu 500 millions de crores, donc c'est la monnaie là-bas, donc c'est à peu près 11 millions de dollars. Et sur ces 500 millions à eux, chaque maison, à la fois le palais de Chandramukhi était à 30 millions de crores et la maison de Paro était à 30 millions de crores aussi. Donc à eux deux, ça fait déjà 60 millions sur les 500. Enfin bref.
En tout cas, on le voit à l'écran parce que c'est assez vertigineux les lieux dans lesquels ils sont. On a l'impression que c'est sans fin quoi.
Si on aime ne serait-ce que l'esthétique d'un film, juste en avoir plein les yeux, avoir l'impression de voir des tableaux à chaque scène et que le scénario ne nous intéresse pas plus que ça ou c'est pas important pour nous, juste pour avoir l'impression de se balader dans un musée vivant, il faut regarder les films de Sanjay Leela Bhansali. On peut pas être déçu visuellement, c'est sûr.
Ce film s'appelle donc Devdas. Il est disponible sur 2 sites, Universciné en VOD, un site de VOD, ainsi que Microsoft Store, où vous pouvez le louer à 2,99€, pour être précis.
Pour donner un peu d'accessibilité aussi, il y a beaucoup de films qui sont disponibles sur les plateformes classiques payantes comme Netflix ou Amazon. Et il y a une plateforme spéciale Bollywood qui vient de faire son entrée, qui s'appelle Bollyrama, et qui, pareil, pour 5€ par mois, comme Netflix et tout, permettra d'accéder à que des films indiens, donc pas que du Bollywood, hein, aussi du Tamoul, du Bengali, etc. Donc eux aussi, ça y est, ils ont réussi à lancer une plateforme VOD rien que pour eux. Donc
trop
voilà.
Bien, c'est bon à savoir. Tu peux rappeler le nom ?
Bollyrama. Bolly avec un tiret, Rama.
Bon, bah parfait. C'est bien noté. On en a fini avec Devdas, on passe à tes deux recommandations, et je suppose qu'un film Bollywood va s'y glisser. Je te demandais, s'il te plaît, de m'évoquer une première recommandation, ma chère Julie.
Ma première recommandation, effectivement, c'est un film Bollywood qui s'appelle Pink, qui est sorti en 2018, il me semble, ou 2019. Et pourquoi celui-là ? Parce que, comme je l'ai dit, Bollywood, ce n'est pas que de la romance et que du kitsch. Et là, j'ai envie de parler d'un film féministe, qui est celui qui m'a le plus bouleversée de tous les films que j'ai regardés jusqu'ici, parce que ça parle de culture du viol, et c'est un thème universel. Moi, je trouve que c'est même un film qui mériterait d'être vu à l'école, parce qu'il n'est pas spécialement cru, il n'est pas vulgaire. C'est trois jeunes femmes qui vont se retrouver convoquées dans un tribunal et qui sont accusées d'avoir molesté et agressé trois hommes, qui sont en fait trois hommes qui les ont agressés sexuellement la veille. Et tout le tribunal montre qu'en fait aujourd'hui c'est aux victimes de se défendre, de prouver qu'elles sont victimes. Et il y a tout un tas de voilà des discussions autour de qu'est-ce que c'est la culture du viol, pourquoi ça existe. Et je le trouve vraiment parfait, très poignant, donc accrochez-vous quand même. Mais voilà, pour vous montrer que Bollywood, ça peut être aussi très engagé. Il n'y a même pas de chanson ni rien, c'est vraiment... voilà.
Pink, le film date de 2016 et il est disponible sur Netflix. Ta deuxième recommandation, s'il te plaît.
Alors, ma deuxième recommandation, elle va vous surprendre parce que c'est un film qui est très vieux.
J'ai peur.
Noël chez les Muppets. Alors, ce film est un peu tombé dans l'oubli. Ça date de 95, hein, ça date pas d'hier, c'est sûr. Mais tout simplement, c'est une adaptation avec les Muppets du très classique conte, en fait, de Charles Dickens, qu'on connaît surtout sous le terme de Noël de Monsieur Scrooge. Avec ce fameux Monsieur Scrooge qui est à la fois misanthrope, avare au possible, et qui, la nuit de Noël, va être visité par trois fantômes qui vont essayer de le remettre sur le droit chemin avant que ce soit trop tard. Et ce film, c'est le film de mon enfance que j'avais reçu à Noël quand j'étais petite, que j'ai vu à Noël et qui m'a vraiment marqué, que j'avais adoré étant petite. Et c'est le seul film que je suis capable de revoir tous les ans à Noël, parce que je regarde très peu souvent une deuxième fois un film. Et celui-là, c'est mon doudou. Alors, c'est vrai, sur le coup, vous allez vous dire, oulala, des Muppets, des marionnettes, ça date de 95, ça doit être très moche. Je vous assure qu'en fait, non, ça se regarde très bien. J'ai réussi, celui-là aussi, à le faire re-regarder à des personnes qui n'avaient pas très envie de le regarder et qui, finalement, ont beaucoup apprécié de le voir. Voilà, et puis il y a des petites chansons, ça déborde d'amour de Noël. Franchement, c'est un petit cocon à Noël, c'est parfait.
Ça me donne envie, moi, en tout cas, parce que ça, c'est une vraie Madeleine de Proust. Je ne sais pas si on va arriver à toucher la jeune génération avec ça, mais en tout cas, ça donne envie. Ça s'appelle Noël chez les Muppets. Et le film est disponible sur Disney+. En tout cas, merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté de répondre à mes questions dans le film qui a changé ma vie. C'était très cool. Merci beaucoup.
Bah, merci à toi de m'avoir accueilli. C'était vraiment très sympa d'en discuter. Ouais.
À très bientôt.
Merci, bye.
Non, l'épisode n'est pas terminé. On n'appuie pas tout de suite sur le bouton stop de son appli, car comme promis, je continue ma tournée de remerciements, mais cette fois, j'avais envie de revenir sur l'épisode 18 consacré à La La Land, qui visiblement vous a beaucoup plu. J'ai reçu pas mal de messages sur les réseaux sociaux, que j'ai d'ailleurs transmis à mon invité qui était Lily, et ça nous a fait extrêmement plaisir. Donc, je ne peux pas citer tous les noms, mais un grand merci à Estelle, à Alice, à Maël, qui est un garçon, à Laura, bref, merci à celles et ceux qui ont pris le temps de nous expliquer par message que ce qu'on avait dit dans cet épisode vous a parlé ou vous a touché. Cette émission sur La La Land vous a tellement ravi qu'elle s'est tissée directement dans le top 3 des émissions les plus écoutées du film qui a changé ma vie. Donc encore une fois, merci. Cette fois, l'épisode 19 est bel et bien fini. Vous pouvez retrouver l'épisode que vous venez de suivre ainsi que les 18 précédents sur toutes vos plateformes streaming préférées. Les coulisses de l'émission sont à découvrir sur nos comptes Twitter et Instagram. Le film qui a changé ma vie. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.